Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent Renaud.
Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il me met la musique dans les oreilles, je ne sais pas quoi on va parler.
Bah, vous êtes dans le studio, Vincent Renaud vient dans les studios, je lui mets le casque, on démarre, pas le temps pour parler. Hein.
J'ai la musique, il me met la musique, il me dit c'est bon on est parti, j'ai dit, mais on va parler de quoi?
Vous avez vu l'heure, c'est l'heure de l'émission, boum ça démarre, merci de vous rejoindre sur Nutri Radio.
Si alors là... Sur franchement, bravo, bravo.
Bah, bravo à vous, parce que c'est vous qui allez dérouler. Moi, j'ai juste appuyé sur un bouton. Là.
Heureusement que j'ai du background. Hein. Heureusement que j'ai quelques petites histoires à raconter. Je peux vous parler de mon week-end dernier, si vous voulez.
Je le ferai pas avec tout le monde. Mais restez là sur cette émission. On va parler du sommeil dans un instant avec vous, quand même. J'ai retenu ça dans l'ascenseur en allant vous accueillir. Je me suis dit, c'est parti. On va parler des actifs d'intérêt dans le cadre du sommeil, si vous avez des difficultés, des actifs c'est intéressants ça. Qui peuvent soutenir, compléter, machin, etc. Bref, merci Vincent. Et
je
mais déjà, parce que on finit l'émission sur... Vous venez avec une émission sur le sommeil quand j'ai fait une nuit blanche, vous voyez, c'est intéressant.
Ah bah, c'est d'à propos, justement.
Ouais, vous avez un petit côté sorcier, c'est pas pour rien. Vous êtes.
Je suis médium.
Ouais, non, mais vous avez un petit côté sorcier. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes médecin, il y a un truc.
Un truc là chez les médecins. Et puis c'est peut-être le bouc. Hein,
ouais, depuis que
j'ai adopté.
Non, il sort pas le bouc, hein. il laisse pousser le bouc. C'est différent.
Ouais, j'ai changé de look. J'ai décidé que pour 2026.
2026 sera poilu ou ne sera pas.
Voilà. Hein l'année du poil.
L'année du poil ou ne sera pas. Laissons-nous pousser les poils.
Du poil à gratter.
Oh, oui, vous êtes un peu un poil à gratter d'ailleurs dans la médecine, vous le savez, mon cher
mieux, je suis fier.
Vincenzo. Bon, merci à notre partenaire, les laboratoires COPMED, spécialisés dans les compléments alimentaires efficaces, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils formulent et produisent leurs produits, n'importe quoi, ils formulent. Les nuits blanches, après, c'est difficile. Non, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on salue notre sponsor sans qui on ne pourrait pas vous proposer ces contenus gratuits et accessibles chaque semaine. Mesdames, messieurs, donc pensez d'ailleurs aussi, s'il vous plaît, à vous abonner à un podcast si vous nous écoutez en podcast pour ne rien rater de ces émissions. Mais je dis ça parce qu'ils formulent leurs produits avec des professionnels de santé pour s'assurer que les actifs choisis soient les plus pertinents et donc les plus efficaces, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas développer des gammes de compléments alimentaires sans s'appuyer sur les nombreuses études qui sortent et sur les efficacités démontrées. C'est ce qu'attendent les patients, c'est ce qu'attendent les clients, c'est ce qu'attendent les professionnels. Donc voilà, je pense que
absolument.
Cette petite
evidence-based medicine,
voilà, cette petite phase de remerciement étant passée, donc merci au laboratoire COPMED, avec une équipe aussi très sympathique, qui plus est, donc ce qui ne gâche rien.
On les embrasse.
Pensez à vous abonner aussi sur www. C'est marrant, puisqu'il y a des gens qui écoutent les émissions, c'est gratuit chaque semaine. Et puis je fais un peu d'autopromo. Ils disent oui, mais c'est un peu trop long. Alors, tous ceux qui pensent ça, si vous voulez, allez changer de radio, allez acheter un truc ailleurs. À un moment donné, il faut qu'on fasse aussi notre petite autopromo. Et je dis ça, il y a deux mails sur 100, donc je parle à deux personnes.
Si, en particulier.
Mais non, mais j'envoie des commentaires.
C'est nous. Moi, après, je ferai mon petit quart d'heure promo aussi.
Non, donc c'est trop long. À la fin, vous savez quoi, on fera les promos à la fin.
Voilà.
Et maintenant, chers auditeurs,
on parle de sommeil.
On adore, on rentre dans le vif du sujet avec cette émission donc sur le sommeil. Pourquoi vous avez tenu à parler du sommeil? Est-ce qu'il y a des nouveautés,
oui.
Des nouvelles études?
Tout simplement, c'est en achetant... alors, je ne vais pas faire de pub pour ce journal grand public parce que franchement...
Pif Gadget, allez-y, dites-le.
Non. C'est ce week-end, en prenant l'avion, je cherchais un journal pour passer le temps, vous savez, quand on prend l'avion...
Playboy.
Playboy, Paris Match, Voici, Gala. Et puis en fait, je suis pas trop là-dedans. Et donc, je regarde un petit peu dans la presse un peu plus, je dirais...
détective.
Non. Non, Le Point, L'Express, vous savez, toute cette presse, Le Figaro, je regardais Économie.
Libération, voilà. Canard enchaîné.
Je cherchais plutôt un Charlie truc Hebdo. Qui soit plus axé. Charlie Hebdo. Et je tombe sur un... et je vois un journal de grand public, je ne dirai pas le nom parce que je ne surtout pas leur faire de la pub, parce que j'ai trouvé ça, que l'article était quand même assez grossier, qui parlait du sommeil. Et donc une découverte extraordinaire sur des nouvelles familles de somnifères. Et donc j'achète la revue, je me dis je vais trouver des choses intéressantes sur l'approche peut-être non médicamenteuse pour traiter le sommeil. Et sur 10 pages d'article, c'était cirage de pompe à Big Pharma. Donc on faisait la promotion d'une nouvelle classe de somnifères.
Ah, on a le droit de faire ça d'ailleurs. Parce que nous, attendez, sur Nutri Radio.
Il ne se pose pas de problème, hein, je peux vous dire.
Attendez, nous sur Nutri Radio, on prend des précautions. Il y a Pollux qui vient tous les 5 minutes, il y a machin, tout ça, on fait attention. Et eux, ils font de la promotion comme ça.
Avec le professeur machin a dit, avec des extraits, ils ont été interviewés des grands universitaires des hôpitaux parisiens, qui cautionnent en plus cette nouvelle classe de médicaments pour lequel on n'a aucun recul. Avec des effets secondaires, moi j'ai déjà vu chez les patients qui le prennent beaucoup d'effets secondaires en termes notamment de maux de tête, nausées, vomissements, dépression, voire suicide. Donc j'avoue que... Bon. Et ça pendant 10 pages sur une revue que les gens vont acheter. Ils vont prendre ça comme argent comptant en disant « Ah, il y a le professeur Intel qui signe ». Et à aucun moment dans cet article, on a parlé des moyens naturels non médicamenteux qui pourraient être beaucoup plus efficaces et moins dangereux surtout. Et je me suis dit, ben tiens, prochaine émission avec Fabrice, il faut qu'on parle du sommeil pour remettre un peu l'église au centre du village et pas faire la promotion de ces nouvelles classes de médicaments, dont je dirais un mot à la fin, mais je ne suis pas là pour faire la pub de ces gens-là. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas normal que dans une revue grand public, les laboratoires pharmaceutiques se permettent d'acheter des espaces. Alors, ce n'est pas espace public, c'est pas des espaces publicitaires. Encore, ça serait une pub. Bon, on pourrait dire que c'est de la pub.
Mais qu'ils n'ont pas le droit. Donc, c'est du coup, en fait...
C'est un public reportage où ils ont interrogé des grands scientifiques. Et à la fin, on vous cite carrément le nom de la molécule, du médicament. Et sachant que moi, je me suis fait en plus ma bibliographie, donc j'ai été voir les études. La conclusion de l'étude, c'est évidemment plus efficace que le placebo à 0,008%, c'est-à-dire qu'en espace, en écart type, c'est nul, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus efficace qu'un placebo. Et à aucun moment dans la conclusion, évidemment, il ne cite et il ne parle des effets secondaires, et à aucun moment, il parle des biais de recrutement de l'étude. Moi, j'ai lu les études sur ces nouvelles classes de médicaments et je peux vous dire que des biais de recrutement, et moi, je ne suis pas un spécialiste...
Qu'est-ce que vous appelez un biais de recrutement? C'est important.
C'est-à-dire
que de préciser.
Quand on fait une étude épidémiologique ou une étude prospective randomisée contre placebo, on va donner des critères d'intégration des patients qui vont tester la molécule. Donc âge, s'ils ont déjà des médicaments, le sexe, des antécédents médicaux. Donc vous avez plein de critères d'études, plein de critères d'inclusion dans une étude qui doivent ensuite permettre d'éliminer les personnes qu'on ne veut pas prendre. Et en fait, progressivement, on choisit un peu finalement de recruter des gens qui vont aller dans le sens du résultat que vous voulez donner à votre étude. Donc c'est souvent un peu orienté, puisque le laboratoire le dit clairement, c'est lui qui a financé cette étude qui a été faite dans les hôpitaux.
Et ça, c'est annoncé dans l'article et tout ?
Oui, non, il ne s'est pas annoncé dans l'article. Okay. Moi, j'ai lu l'étude et à la fin, effectivement, c'est signé de la part du laboratoire. Mais les professeurs qui ont co-signé ces études le disent à la fin qu'ils ont été financés, et donc ça a été un sujet de thèse probablement pour un jeune étudiant, mais ils ont été financés par cet industriel. Mais si on regarde la conclusion, moi, quand j'étais médecin, les laboratoires m'apportaient juste la conclusion d'une étude. Comme j'y connaissais rien, je disais, ouais, le produit marche super bien. Mais quand vous relisez l'étude, vous voyez qu'il y a un biais de recrutement et donc, du coup, les patients sélectionnés pour cette étude étaient orientés pour aller vers un résultat qui pouvait arranger le laboratoire, que finalement le score contre placebo, il n'était pas si bon que ça, 0,08%, ce qu'on appelle le PR, donc c'est vraiment l'indice d'écart type significatif pour dire que le médicament est plus efficace qu'un placebo, mais surtout on occulte tous les effets secondaires qui étaient cités dans l'étude. Ça, c'est quand même assez, je trouve, de l'escroquerie et du mensonge. Mais enfin, bref, mais tout simplement, ça m'a donné envie de parler du sommeil, de la santé du sommeil, mais pas avec ce type de molécule.
Alors, on va en parler dans un instant, on va faire une pause, mais petite question, puisque là, cette molécule, finalement, elle est disponible, puisqu'il s'agit de médicaments,
remboursée.
Sur prescription. Ça veut dire que c'est le patient ou quelqu'un de lambda, le grand public, moi, je prends cette revue, je la lis, et après, je vais voir mon médecin, et je dis, bah attendez, j'ai vu ce truc, regardez, et donc il me l'a prescrit.
Exactement.
Waouh, ok. Et nous, après, on va nous dire, bah tiens, t'as pas dit que la tisane, bon, bref.
Ah, on n'a pas le droit de parler de la tisane à la camomille, parce que sinon, on fait la promotion de la camomille. Imaginons qu'on se fasse attaquer par une camomille, c'est dangereux.
Non, mais c'est incroyable. Enfin, bon, écoutez, nous, en tous les cas, Pollux.
Salut, moi, ouais, c'est Pollux.
Allez, c'est terminé. C'est
ouais,
terminé.
Pollux. Si tu nous entends, Pollux.
Vous savez qu'on prend tellement de précautions que maintenant, même je vous dis bonjour Vincent Renaud.
Salut, moi ouais, c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations voilà. ne sauraient se substituer à un avis.
Parce que même le bonjour ne se substitue pas à un avis médical, sachez-le mon cher.
Exactement,
Vincent Renaud.
C'est très important.
Consultez votre médecin généraliste.
Et je voudrais rajouter que ce médicament, bien sûr, a eu l'AMM, l'autorisation sur le marché en 2022, il est remboursé. Aujourd'hui, les hypnotiques sont appelés psychotropes. Zolpidem et Zopiclone sont sur prescription médicale limitée uniquement par les prescriptions par les psychiatres. Les généralistes ne peuvent plus parce qu'il y a eu tellement d'effets secondaires et d'accoutumance que ces médicaments sont quand même dangereux. Alors eux, ils ont un peu triché, ceux qui sont dans une classe pharmacologique différente de ces hypnotiques. Et du coup, on peut les prescrire sur 6 mois et les prendre comme des petits bonbons. Mais autre effet de ce nouveau traitement, c'est la dépendance. C'est qu'une fois qu'on commence, on ne sait plus les arrêter. Jackpot.
Bien, allez, petite pause. Évidemment, si vous avez besoin et votre médecin vous prescrit ce genre de molécule et que vous nous écoutez...
Je vais pas citer le nom. Hein.
Non, mais si vous... votre médecin, allez-y, suivez les conseils de votre médecin généraliste. Et vraiment, je vous incite à bien choisir votre médecin généraliste aussi. Ça, c'est important. C'est important.
Vous savez le coût des hypnotiques et des somnifères en France, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros dépensés.
C'est exactement
pour...
ce qui me reste sur mon compte en banque, c'est fou. Allez, on marque une toute petite pause, on se retrouve après ceci.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio pour nous parler du sommeil. Petit préambule qui était un peu long mais intéressant parce que c'est la question que je voulais vous poser juste maintenant. On va revenir sur les actifs et tout, mais quand on voit comme ça dans un magazine parler d'une molécule et qui met en avant les résultats d'une étude, où est-ce qu'on peut, nous en tant que consommateurs et lecteurs, se renseigner pour savoir qui finance l'étude?
Il faut aller sur PubMed, vous rentrez finalement. Alors, quand j'ai tapé sur PubMed le nom de la molécule et les études, j'en ai trouvé une dizaine, études randomisées contre placebo, etc. Et la plus grosse étude, celle qui a servi à avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, le travail a été fait par une équipe franco-suisse ou franco-belge ou franco-canadienne, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, ils ont regroupé plus de 100 000 patients. Et en relisant cette étude, à la fin de cette publication, dans une revue dont j'ai oublié le nom, Psychologie, c'est pas Psychologie Magazine, hein, mais c'est dans une revue scientifique sérieuse. Et tout à la fin, hein, il s'est toujours noté dans toutes les études et revues que vous trouvez sur PubMed, ils vous mettent s'il y a un conflit d'intérêt ou pas. C'est devenu une obligation. Donc là, on ne peut pas biaiser. Mais c'est écrit en tout petit. Vous savez, c'est comme les contrats d'assurance. Oui. Hein, ils vous mettent les trucs en tout petit qu'on ne voit pas.
C'est bien fait.
Donc ce qui fait, si vous lisez l'étude en diagonale, et en plus c'est tout en anglais, on ne comprend rien, ben, vous n'avez pas forcément cette notion. Donc soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que toutes les études sont faussées et falsifiées. Il y a des études très sérieuses faites par des équipes indépendantes. Je dis bien indépendante de tout conflit financier. Et ces scientifiques, ces vrais chercheurs, ceux-là, par contre, il faut les encourager, les féliciter, parce qu'ils font un travail extraordinaire pour rechercher de nouvelles molécules, parce qu'on a besoin de nouvelles molécules chimiques, on n'a pas besoin que de compléments alimentaires. Mais quand on voit qu'on fait la promotion de ces produits chimiques remboursés, payés par nos impôts, je trouve ça pas normal.
Alors maintenant, on va avoir une approche naturelle pour savoir quelles sont peut-être les nouveautés. Alors, et les actifs d'intérêt qui ne substituent pas évidemment un avis médical ni un traitement, mais quels sont-ils, pourquoi, comment ?
Alors, avant de parler d'actifs, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil. Hein, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant qu'il y a deux mécanismes qui contrôlent le sommeil. Il y a ce qu'on appelle l'horloge circadienne, qui est réglée par la lumière, les repas, le lien social, l'activité physique, et tout ce qui fait que la journée, nous restons éveillés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge circadienne qui va permettre de régler notre chronorythme jour-nuit avec un chef d'orchestre qui est la mélatonine. Et puis ensuite, on a une horloge homéostasique qui est contrôlée par une autre hormone qui s'appelle l'adénosine qui, elle, sont les systèmes qui vous maintiennent en éveil. C'est ce que, alors, l'adénosine, c'est en fait un compteur de fatigue. En gros, le soir, quand vous commencez à cligner des yeux, bâiller, vous étirer, ça veut dire que vous avez consommé votre poule d'adénosine, c'est un neuromédiateur. Hein. Et d'ailleurs, dans adénosine, il y a adénosine triphosphate, ce qui veut dire ATP. Donc l'adénosine rentre dans la production de l'énergie. Et donc ce compteur de fatigue, il va s'épuiser hein, au fil de la journée. C'est pour ça qu'il faut se dépenser. C'est sûr que si vous passez la journée derrière votre poste de télé ou allongé dans un canapé, votre compteur de fatigue, il ne sera pas très élevé. Et donc c'est l'équilibre entre les systèmes de veille, qui vous permettent de rester en éveil, versus ce qui vous aide à vous endormir, comme la mélatonine ou le GABA, qui va faire que votre sommeil va plus ou moins se déclencher. Donc il faut vraiment arriver à équilibrer les deux horloges pour que vous puissiez trouver un sommeil réparateur. Donc on va pouvoir jouer, nous, dans les actifs, sur ces deux axes. L'axe circadien et l'axe compteur de fatigue, je vais l'appeler, hein, l'axe adénosine. Alors pour pouvoir effectivement jouer là-dessus, alors cette nouvelle famille de médicaments dont j'ai parlé, elle agit justement en bloquant les mécanismes d'éveil, un peu comme le café d'ailleurs. Le café, en fait, va bloquer une hormone qui s'appelle orexine. Hein, c'est pas Orexone le chanteur, hein, c'est
Orexane.
Orexane. Orexine comme orexigène.
Oui.
Anorexique, orexine, parce qu'elle aurait des actions justement qui augmentent l'appétit. Donc cette orexine, c'est une hormone qui nous maintient en éveil. Donc le principe de cette nouvelle molécule, c'est d'inhiber cette molécule en bloquant les récepteurs, cette molécule et ce neuromédiateur qui est orexine, pour nous faire permettre de dormir. En fait, donc ce qu'on appelle des antagonistes de l'orexine. Le café, lui, est un agoniste de l'orexine. En fait, il va perturber le compteur de fatigue, il va bloquer cette hormone, il va agir sur cette hormone en mobilisant plus d'énergie et en vous faisant croire que vous n'avez pas sommeil. Et c'est un perturbateur, finalement, parce que ça ne vous rajoute pas au compteur du repos. C'est pas parce que vous prenez un café, vous dites « Ah ben super, j'ai un regain d'énergie, je vais mieux. » Non, sur l'addition et sur la balance entre la consommation d'énergie et nécessaire pour pouvoir dormir, et ensuite ma phase de repos au sommeil qui me permet de réparer, il y a un déséquilibre. Deuxième élément important, donc ça c'est important de comprendre que nous allons travailler sur ces mécanismes. Donc dans les mécanismes du sommeil, qui induisent le sommeil, il y a bien sûr la mélatonine. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, au niveau réglementaire, elle est autorisée jusqu'à 1,9 mg par comprimé en vente libre. Au-delà, c'est sur prescription médicale. Donc moi, ça peut m'arriver de donner 5-10 mg de mélatonine, mais c'est en préparation magistrale. Et c'est sur prescription médicale cette fois-ci. Attention à l'automédication, parce que la mélatonine est en vente libre jusqu'à 1,9 mg. Souvent, on trouve des compléments alimentaires qui associent à la mélatonine de l'escholzia, qui est une plante intéressante. Elle est GABAergique, sérotoninergique.
GABAergique, rappelez-vous.
GABA. Le GABA, c'est un neuromédiateur qui a des effets anxiolytique-like, qui permet un petit peu de lutter contre l'anxiété chronique. Et alors, il y a d'autres de composés qu'on connaît bien qui agissent sur ces récepteurs GABAergiques, c'est l'alcool. Alors, ce n'est pas conseillé, bien sûr, pour dormir. Alors, souvent, on boit un peu et on se dit « Oh, chouette, ça va me faire dormir. »
Il paraît que dans les EHPAD, ils donnent un verre de vin, un petit
coup de rouge.
Ah, oui. Il paraît, dans certains. Enfin, bon.
Pour les faire dormir. Sauf que moi, ça m'empêche de dormir parce que ça stimule mon histamine.
Libido.
Et ça ne stimule pas ma libido, non. C'est l'alcool, en général, c'est plutôt l'inverse. Donc, la mélatonine, attention à ne pas l'utiliser de n'importe comment. Vous avez des formes à libération rapide. avec les sprays qu'on peut se mettre sous la langue. Ça permet, ça c'est plus pour les gens qui ont du mal à s'endormir.
Ça fonctionne ça, ces sprays ?
Oui, c'est un inducteur du sommeil. Le problème, c'est que ça a une demi-vie très courte. Donc ça veut dire que ça va agir 2h, 3h. Mais si vous avez des réveils au milieu de nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'ai beaucoup de gens, souvent, dans les troubles du sommeil, ils ont plutôt pas de mal à s'endormir, mais ils vont plutôt se réveiller en deuxième moitié de nuit. 2h, 4h, 6h. Et là, le petit moulin se met en route. Donc il faudra juste, pour la prochaine émission peut-être, revenir sur les cycles du sommeil et savoir pourquoi, justement, ces petits moulins se remettent en marche entre chaque cycle de sommeil. Mais ça, ça sera peut-être pour la prochaine émission. Donc pour la mélatonine, moi je préfère utiliser les formes à libération prolongée. Donc la forme spray, c'est bien pour les gens qui ont des difficultés à s'endormir. Pour ceux qui s'endorment bien mais qui se réveillent en milieu de nuit, on va prendre plutôt de la mélatonine en libération prolongée, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la galénique avec les excipients pour que la mélatonine se délite lentement dans le corps pour ne pas avoir d'effet, pour que ça ne vous assomme pas non plus boum, au moment de l'endormissement, mais surtout pour qu'au réveil, vous ne soyez pas non plus dans le gaz et dans le pâté. Donc ça va avoir cette fois-ci une demi-vie un peu plus longue, puisque là, vous allez avoir une efficacité d'environ 6 heures, ce qui fait que si vous couchez vers 11 heures, ne vous étonnez pas si à 5-6 heures, ça ne fait plus d'effet. Mais c'est la moyenne de sommeil, c'est entre 6 et 8 heures par nuit, à l'âge adulte. Alors après, les adolescents, on sait qu'ils ont besoin de plus de sommeil jusqu'à 12-14 heures. Les nourrissons, c'est encore plus. Donc, on sait que le sommeil diminue avec l'âge et que le taux de mélatonine diminue avec l'âge. Alors, comment savoir si on manque de mélatonine ?
Oui, on peut le doser, c'est une hormone, on peut la doser.
Ouais. Alors, moi, je le dose en salivaire. Alors, on peut le doser dans la journée, on peut le doser plutôt dans la nuit. C'est compliqué parce que si on vous dit réveillez-vous à 2h du matin, crachez dans un petit tube, cher Fabrice, pour voir si votre mélatonine, elle est haute ou basse à 2-3 heures du matin. Je rappelle, le pic de mélatonine, c'est entre 2 et 3 heures du matin. C'est là où on est dans le sommeil profond. C'est compliqué parce que vous allez allumer la lumière, vous allez cracher dans le tube, mais forcément, en allumant la lumière, vous allez faire chuter la mélatonine. Donc, le seul moyen, c'est de faire un test salivaire le soir au coucher, le matin au réveil et un peu dans la journée pour voir s'il y a une sécrétion. Il faut savoir qu'il n'y a pas de stock de mélatonine. On la sécrète uniquement lorsque l'obscurité se pointe, donc en fin de journée. Et on veut dire que la mélatonine diminue progressivement à partir de 3-4 heures du matin jusqu'au petit lever du jour et elle laisse la place au cortisol. En fait, vous avez toujours un couple cortisol-mélatonine. Alors, ce qui est très important, c'est quand on utilise de la mélatonine et que vous avez des réveils en milieu de nuit, pourquoi on n'arrive pas à se rendormir ? Ben, c'est tout simplement que le cortisol il commence à augmenter vers 2-3 heures du matin. Et il se passe chez des personnes assez sensibles à l'hypercorticisme, qui ont des cortisols hauts le matin, c'est que quand ils commencent à se réveiller, ils vont faire leur petit pipi vers 2-3 heures du matin, ils n'arrivent pas à se rendormir parce que là, le cortisol se met à remonter juste à ce moment-là.
Okay.
Donc, ils bloquent la mélatonine et c'est comme ça qu'on a du mal à se rendormir et qu'on fait de l'insomnie. Donc, c'est pour ça que j'utilise en même temps des moyens d'inhiber mon cortisol pendant la nuit. Et donc, la mélatonine seule, parfois, ne suffira pas. Alors, comment on fait pour faire baisser le cortisol pendant la nuit ? Ben, on va jouer sur ce fameux GABA, le système GABAergique. Donc, on va utiliser des plantes GABAergiques. La passiflore, par exemple, c'est une plante qui a des effets sur le récepteur GABA. La mélisse, l'aubépine, la valériane. Toutes ces plantes vont permettre, associées à la mélatonine, d'avoir une double action. Un, la mélatonine, l'hormone du sommeil, ça permet de respecter notre cycle et notre boucle du sommeil avec le pic à 3 heures du matin. Et en même temps, on va y associer des plantes GABAergiques qui vont permettre de mobiliser, de maintenir, on va dire, le cortisol à un taux basal le plus bas possible pour éviter les réveils en milieu de nuit ou tout simplement, si on se réveille quand même en milieu de nuit, c'est pour permettre les réendormissements rapides. Donc je précise que le cycle du sommeil, il y a trois phases. La phase, il y a le sommeil, l'endormissement, ensuite il y a le sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal.
Alors juste un truc, Vincent, pardon. là, si je vous suis, Bon, évidemment, en rappelant que ces infos ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement,
non, non.
Rapprochez-vous de votre médecin généraliste, mais il y a des plantes et des actions, enfin la mélatonine qui est reconnue, hein, pour agir sur le sommeil. Donc pour...
Pas que, hein. J'ai toute une liste d'effets intéressants de la mélatonine dont on pourra parler dans une prochaine émission.
Eh bien ça c'est intéressant, oui, effectivement, parce que la mélatonine, normalement, c'est mélatonine, on pense directement à sommeil.
Ah oui, oui, vous allez voir que c'est une hormone anti-âge très intéressante.
Eh bien on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, juste pour dire, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un truc un peu très très concret, on a compris que si on prend un spray mélatonine, ça peut aider à soutenir et à accélérer l'endormissement, mais que ça ne va pas agir longtemps, qu'après on peut avoir besoin de la mélatonine. Est-ce qu'on peut l'associer à un spray plus la mélatonine à libération prolongée? Et à quel moment on prend ces plantes GABAergiques comme la passiflore? Est-ce qu'on le prend avant de s'endormir? Est-ce qu'on les prend quand on se réveille à 2h du mat?
Non, on les prend au coucher. Alors j'ai oublié de citer effectivement dans les actions sur le GABA anti-cortisol, pour faire baisser le cortisol, il y a le magnésium, et en particulier la forme thréonate de magnésium.
Ah oui.
La L-théanine aussi, qui est de plus en plus citée, et le GABA, puisqu'il y a des laboratoires qui développent des formules avec la molécule GABA, hein, qui va agir sur les récepteurs GABA. Il faudra bien sûr éviter de consommer le soir des glutamates et des substances qui sont excitantes. Il faudra évidemment faire baisser la température dans la chambre. Il faudra éviter de faire de l'activité physique après 17 heures, parce que sinon ça fait monter le cortisol. Enfin, on va dire 17h, 19h. Et ça, c'est très important. Et puis éviter des coups de stress, c'est-à-dire après 20h, 20h30, n'allez plus sur les ordinateurs, éviter les écrans. Tout ce qui est lumière bleue, en fait, bloque la mélatonine.
Et aussi, ce qui est important, ça c'est intéressant d'ailleurs, cette conversation, parce qu'on dit toujours que la complémentation ne sert à rien si elle n'est pas associée déjà à une bonne alimentation. C'est vrai que si vous prenez de la mélatonine et que vous mangez un steak de 400 grammes et du café, et vous picolez un peu, plus machin, et que vous vous embrouillez un petit peu avec vos enfants, votre partenaire,
ou etc., que vous ouvrez, moi ça m'est arrivé une fois, j'ouvre un courrier, c'était un redressement. j'avais oublié de payer mon URSSAF.
Ah là là.
Boum.
Recouvrement, dingue, on connaît. Et par contre, vous savez quoi, très important. Enfin, moi, j'ai une règle, jamais ouvrir la boîte aux lettres le soir.
Jamais.
Parce que qu'est-ce
et
qu'on
jamais
peut faire
ouvrir ses mails aussi. Des fois, il y a des mails qui sont stressants.
Ah ouais, non, mais les courriers ce soir. Donc, c'est une règle comme le vendredi soir. Enfin, le samedi soir. On sait qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et même le samedi, quand on reçoit un courrier, les administrations étant fermées, on a tout le week-end pour stresser dessus.
Tout à fait. Et puis, si on est allergique, on prend un antihistaminique.
Et on peut l'associer.
N'est-ce pas?
Alors, attention, ça, les antihistaminiques,
bien sûr,
on dit souvent qu'il y a un effet d'endormissement.
L'histamine empêche de dormir. Ça bloque la mélatonine. L'histamine cérébrale.
Eh oui. Ah.
Donc, si. Alors, moi, je prends des fois un petit antihistaminique, si j'ai un peu bu, ou si j'ai un peu d'allergie aussi, parce que l'alcool, ça augmente l'histamine au niveau cérébral.
Okay.
Et donc, du coup, ça stimule la vigilance, comme les sulfites, comme beaucoup d'autres substances, comme les oxalates, pour faire plaisir à Marion.
Marion, qu'on adore, qu'on embrasse.
Les glutamates. Tout ça, ça peut empêcher de dormir. Donc, pour vous qui avez des problèmes d'allergie, le soir, il faut prendre un petit antihistaminique. Alors,
sous contrôle médical, évidemment, je vais aller voir mon médecin. Et,
bon, écoutez, non, mais il y a des antihistaminiques naturels.
Ah, mais oui, c'est vrai. Exact, comme
Bien sûr. Alors, vous avez la quercétine, le plantain, l'extrait d'œuf de caille.
Ok.
Voilà. Je ne citerai pas de nom de produit de marque, mais je crois que c'est la formule d'un produit connu de notre sponsor. Mais je dirai rien d'autre.
Ça, on ne dit pas. Oh là là, c'est la fin de cette émission. Vous avez demandé. Mais, mon cher Vincent, on va se retrouver la semaine prochaine. On va reparler de la mélatonine. Cette émission est dispo en podcast tout de suite sur NutriRadio.fr. Au revoir, Vincent.
Au revoir.
Retour de la musique tout de suite sur NutriRadio.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur NutriRadio.